1, 2, 3. Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Jean-Claude Deray.
Arthur Harari.
Ping pong. La culture sans limite. Oh, yeah.
Ce soir, dans Ping Pong, du polar, de l'aventure et des malédictions parmi les arbres qui pleurent et les diamants bruts, et sous le regard d'un jaguar à l'oreille tranchée et d'un diamantaire à la main coupée.
Avec Jean-Claude Deray, écrivain, voyageur, documentariste intercontinental et romancier explorateur qui utilise la littérature pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, celui des enfants soldats ou des passeurs, mais aussi celui d'hier dans le thriller historique qu'il vient de publier chez Rivage, Fordlandia, sur la mégalomanie nazie en Amazonie.
Et avec le cinéaste Arthur Harari qui signe un polar aux multiples facettes, tranchant et lumineux, porté par une mise en scène palpitante et une distribution magnétique, Diamant Noir, en salle, demain.
J'ai reçu deux pierres ce matin.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen.
Je voudrais que tu les regardes.
Ping pong.
Qu'est-ce que tu en dis ?
C'est sur France Culture.
La voix de Joss Verbeest qu'on retrouve dans Diamant Noir. Diamant Noir, ça sort demain. C'est prix du jury au Festival International du Film Policier de Bonn. C'est votre premier long métrage, Arthur Harari. Vous co-signez également le scénario et c'est un peu Hamlet au pays des diamantaires anversois. Racontez-nous pourquoi.
Pourquoi ? Alors bon, le tout départ, c'est un coup d'envoi qui m'est extérieur, une espèce de commande. Bon, très vite, ça s'est déplacé, mais on m'a proposé de faire un film de braquage, et donc j'ai tout de suite sauté dessus avec l'idée d'en faire quelque chose de plus compliqué, plus impur ou plus, en tout cas, pas un film qui serait juste l'efficacité de cette commande. Et je lisais à ce moment-là, je venais de lire un bouquin qui s'appelle Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France de Pierre Goldman, qui est le grand demi-frère de Jean-Jacques. Et qui était un militant d'extrême gauche très très impatient d'en découdre physiquement avec le
grand capital,
avec le pouvoir bourgeois et le grand capital, et qui est parti à un moment essayer de faire la révolution en Amérique du Sud, qui est revenu et qui a commencé à connaître une dérive criminelle, qui a fait des braquages assez minables en fait, notamment
qui ont mal tourné.
Enfin,
Jean-Claude Deray opine du chef.
Oui, absolument, des braquages, et puis on soupçonne aussi d'avoir tué de pharmaciennes,
ouais. Voilà, Richard Lenoir, ouais. Et donc il a écrit ce bouquin en prison après avoir été condamné une première fois à perpétuité, qui est un bouquin qui retrace toute sa vie et dont la deuxième partie est une défense pour son innocence, et qui moi m'a beaucoup marqué. Et donc ce personnage de fils de résistant juif polonais écrasé par la figure de son père et qui navigue entre un idéal très chaud et une dérive dans la réalité très très sombre et très ambigu m'intéressait beaucoup. Et bon, le personnage de mon film s'appelle Pierre Ullmann, un petit peu c'est un cousin de ce personnage là et en fait la figure d'Hamlet,
c'est incarné par Nils Schneider,
voilà, et Hamlet, qui est une figure qui moi me fascine beaucoup, comme à peu près tout le monde occidental, s'imposait comme une colonne vertébrale.
C'est-à-dire une histoire de vengeance, une histoire de famille. Mais il y a aussi, quand on dit Hamlet au pays des diamantaires anversois, vous ne nous avez pas donné la partie diamantaire anversois, parce que ça, c'est quand même un personnage du film, la ville d'Anvers, on peut le dire, puisque vous l'utilisez aussi beaucoup.
Ouais, bien sûr. Alors l'idée de départ était un déplacement, c'est-à-dire que le personnage découvre un milieu, une ville et une famille, parce qu'il va dans une famille qui est la sienne, mais qu'il ne connaît pas et qu'il déteste. Et donc le milieu des diamantaires n'a jamais été vraiment le cadre d'un film. Ça m'a semblé très excitant de le découvrir, ou en tout cas d'aller m'y intéresser. Et très vite, quand j'y ai été, j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert des portes parce que c'était des amis d'amis. Enfin, il y a un truc de confiance qui s'est passé comme ça. Et le potentiel à la fois romanesque et la possibilité d'ancrer ça dans cette réalité-là en la décrivant de manière très précise, voilà, me semblait exactement au bon endroit pour le film que je voulais faire, à la fois réaliste et très stylisé.
Vous n'étiez pas au courant du tout qu'il était malade ?
Non, j'avais 15 ans la dernière fois que je l'ai vu.
Passe me voir un de ces jours à Anvers, si tu veux. On est cousins, quoi, merde.
Ça marche plutôt bien en ce moment.
Les diamants, c'est juste une pierre transparente, tu vois.
on décide que ce caillou vaut cher et ça crée de l'injustice.
Tu es le fils de Victor? Ça t'intéresse, le diamant?
Ouais.
Ce qui fait la différence, c'est l'œil. Qu'est-ce que tu en dis?
Je crois pas que ce soit un diamant, ça.
Ne fais jamais plus quelque chose derrière mon dos, sinon te dégage. Tu n'es pas chez toi ici.
L'histoire de Victor Hulman, né dans une famille de diamantaires à Anvers, en Belgique. Sa main a été broyée par une machine devant son frère qui n'a pas bougé pour l'aider.
Je qui fait mal, je qui paie, je qui souffre.
On entend le thème du film signé Olivier Marguerite, c'est aussi un thème que vous aviez en tête à l'écriture. Vous l'avez siffloté au départ, Arthur Ahari. Vous accepteriez de refaire pour nous comment ça venait dans votre tête?
Alors ça venait comme ça. Après, j'arriverai plus.
Et vous faites le signe comme une boucle. Avec le doigt qui tourne.
Bah, c'était effectivement une ritournelle très obsédante comme ça. Je ne sais pas exactement d'où elle m'est venue. Et je me suis. Enfin, c'était assez important pour moi d'avoir ça en tête, même comme une espèce de métaphore esthétique de ce à quoi je voulais que le film ressemble, et aussi de sa forme narrative, qui est à la fois très obsessionnelle, c'est-à-dire très. Les éléments qui reviennent tout le temps, qui sont les mêmes, et en même temps qui
plongent. C'est-à-dire Nils Schneider qui doit venger son père qui aurait été donc privé de son héritage et blessé tragiquement à l'âge de 15 ans en taillant un diamant. Et puis cette famille de diamantaires en Versailles qui l'infiltre pour faire un casse.
Ouais.
Et surtout pour sa vengeance personnelle.
C'est-à-dire il y avait ce mouvement très simple qui est quelqu'un a souffert, on veut le venger, on va chez les ennemis. Pour trouver le moyen de les faire souffrir, et en même temps, et avec un moment, ça s'incarne dans un vol, parce que c'est des gens qui possèdent quelque chose de très précieux, les diamants, et en même temps, cette avancée vers ce but-là, qui est une espèce de contrat excitant avec le spectateur, on va voir un braquage, est aussi l'occasion d'une espèce de plongée profonde et même peut-être qui rétropédale vers le passé, parce que en fait. Il ne connaît de l'histoire de son père et de sa famille qu'un mythe ou qu'un récit mythique qui évidemment qu'il va réinterpréter, quoi.
Jean-Claude Deray, le personnage de Pierre, donc Nils Schneider dans Diamant Noir d'Arthur Ahari, est en fait animé par deux choses qui sont à la fois le désir de vengeance et la quête de la beauté. La vengeance, elle est aussi dans Fordlandia, votre nouveau roman, on va y venir, mais il y a aussi la beauté, me semble-t-il, dans votre travail, à travers ces paysages de l'Amazonie qu'on explore pour cette fois-ci, mais vous avez exploré d'autres paysages à la fois sauvages et édéniques dans vos différents romans. Je pense à la Mauritanie, par exemple, dans Toubab or Not Toubab. Et puis toujours, il y a les ténèbres de l'âme humaine au cœur de vos romans aussi. Voilà, la beauté, c'est le mobile, sinon un des mobiles qui vous anime dans l'écriture romanesque.
C'est d'abord l'évasion. À Paris, en France, au cœur du Berry, mes ailes sont étroites, sont courtes, pas beaucoup de plumes, pas beaucoup de couleurs. Et le fait de partir, déjà ce mot qui est magique, ailleurs, derrière l'horizon, me stimule énormément. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième nature qui prend le pas, et qui me permet effectivement de m'ouvrir à de nouveaux paysages et surtout aux gens. Voilà. Donc l'Amazonie, eh bien un jour, je venais de terminer un livre, puis j'avais envie de. Je me ressource de cette façon. Quand j'ai écrit, la batterie est à plat. Il faut absolument que je la recharge. Et elle peut se recharger en une semaine à condition d'aller à l'autre bout du monde. Bon, je pars au hasard. Je saute dans un avion et je suis arrivé à Manaus. Donc, à Manaus par un bateau, hein, en longeant l'Amazone.
Au Brésil, dans la...
Voilà, au Brésil.
Dans la forêt.
Et là, j'ai eu envie de rencontrer les Indiens. Alors, à l'hôtel, j'étais à un hôtel près du port. On m'a présenté un responsable des voyages qui est venu avec un pressbook de très belles images, très belles photos, très léchées, en me disant, ben voilà, si vous voulez, chez les Harara, on peut vous y mener, mais ça vous coûtera $400 par jour. Vous êtes très sympathique. Je dis, mais si j'étais antipathique, combien ça coûterait? Donc, ça a continué comme ça. Puis, du coup, je suis allé sur le port, j'ai vu un Indien qui grimpait dans son canot. Je lui dis, tu m'emmènes? Il me dit, viens. Et on est parti. Et ça a commencé comme ça.
La beauté, c'est l'obsession effectivement du personnage de Pierre incarné par Neil Schneider, la recherche de la beauté, la recherche de la beauté dans une pierre de diamant bien sûr, et c'est toute la métaphore du film.
Ici on ne fait pas des tailles standards, seulement des grosseurs, des pièces très très spéciales. Ici on fait l'analyse de la taille. Une pierre qui sort d'ici est toujours asymétrique, aussi unique que quand elle arrive brute. La technique, ce n'est rien du tout, tu sais. En 3 mois, n'importe qui peut la maîtriser. Ce qui fait la différence, c'est l'œil.
Jo Verbiest à l'apprenti, tailleur de diamants, Kenny Schneider dans votre film Diamant Noir, Arthur Harari. Le diamant, c'est évidemment le cinéma dans ce film. C'est un secret pour personne, c'est une quête esthétique. Vous nous proposez votre poétique du cinéma. Et c'est vrai que quand on regarde le film par ce prisme, on ne voit que ça. Il y a ces répliques qu'on vient d'entendre, mais aussi à un moment, vous dites « Trouver de la beauté pour nous », enfin vous faites dire un de vos personnages, « Trouver de la beauté pour nous, c'est trouver une harmonie qui ressemble à aucune autre ». C'est ce que dit Neil Schneider. On a entendu ce refus du standard aussi dans l'extrait. C'est ça, c'était un film aussi sur ce que doit être le cinéma, sur ce que vous cherchez à ce qu'il soit.
En tout cas, ce qui moi me motive et m'excite profondément, autant quand je le vois des films que quand je les fais. D'ailleurs, peut-être encore plus quand je les fais, parce que moi, je suis un spectateur assez protéiforme, comme beaucoup de cinéphiles. Je peux prendre un plaisir très intense, et j'ai commencé au cinéma comme spectateur enfant par là, devant des films qui semblent se plier ou représenter une forme d'achèvement classique. Et on est jamais très loin d'une norme dans le classicisme. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, fait la différence, c'est que le classicisme peut accueillir des formes extrêmement variées et même des tons très très contrastés, mais l'achèvement absolu, pour moi, c'est de ne pas le laisser voir, c'est-à-dire d'avoir, et je pense que mon film n'est pas du tout à cet endroit-là. Il a une dimension beaucoup plus baroque, c'est-à-dire une espèce de boulimie ou je sais pas, je peux pas.
On va y revenir. Hein, vous avez un peu mangé Buñuel aussi au passage. Il y a du surréalisme. Mais...
Bah oui. Moi, j'ai l'impression d'être un tube digestif mental avant tout, et donc le film est aussi dans cet écrin du genre, du film de genre, était une possibilité, voilà, du film noir, une possibilité de mêler des choses, mais en essayant de les unifier par un récit qui, malgré la grande complexité que j'ai essayé d'y mettre, ne quitte jamais aussi une forme de grande simplicité, quoi. Raconter un type qui veut venger son père.
Il y a des grandes figures dans l'imaginaire et dans le cinéma d'Arthur Harari, et il y a aussi une grande figure au point de départ de Fordlandia, Jean-Claude Deray, la personne d'Henry Ford,
ouais.
L'homme le plus riche du monde à l'époque, ouais. Dans les années 20, ouais. Ce fabricant des fameuses Ford T et A, et qui était aussi un fasciste, comme nous le chante David Rovitch.
Ford built tanks for the Nazis, and the Nazis used those tanks to gun down lots of soldiers in the U.S. Army ranks. Yes, Henry Ford was a fascist, and a nasty one was he. He built tanks for anyone for the proper fee. Henry Ford spoke to his lackeys and he said, isn't this great? We'll attack our enemies and we'll retaliate. Yes, Henry Ford was a fascist and a cunning liar too. A brown shirt with a swastika draped in red, white, and blue. Henry Ford spoke to his workers and he said, you dare not strike. You must be patriotic and take on my Third Reich. Yes, Henry Ford was a fascist and he had not a care about the dying soldiers that made him a billionaire.
Une chanson en apparence légère, avec des rires dans le fond. Henry Ford était un fasciste. Henry Ford, en effet, on entend parler de grève, notamment dans les paroles de cette chanson. On sait qu'il a pu faire tirer sur les ouvriers qui manifestaient pacifiquement, en laissant un certain nombre de victimes sur le carreau et sans état d'âme. Il était aussi un fervent antisémite. On dit même qu'il a été l'inspirateur d'Adolf Hitler, en plus d'être un des grands argentiers du parti nazi naissant et qui l'a conduit
1921, ouais.
Au pouvoir. En quoi, là, je dirais, dirais, la double extermination, la soif d'extermination d'Henry Ford, à la fois celle qu'il appelait de ses voeux, qui était celle des Juifs, il voulait purifier le monde occidental des Juifs, et puis aussi le fait qu'il extermine, bien que ça n'ait évidemment aucun, comment dire, aucun degré de comparaison, mais il y a une question de l'extermination aussi de la forêt amazonienne au cœur de votre bien roman, sûr. Puisque en créant cette utopie industrielle qui est Fordlandia, où il veut créer la plus grande usine de fabrication de caoutchouc du monde, il détruit, il ravage la forêt, il extermine les Indiens au passage. En quoi cette question de l'extermination, de la purification, de la destruction par Henry Ford a pu créer, sinon un point de départ, du moins un matériau romanesque qui vous a lancé sur sa piste, Jean-Claude?
Alors au départ, c'est vrai que dans les ruines de Fordlandia, j'ai essayé de fouiner, de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et un vieil Indien m'a parlé d'Henry Ford. Je suis rentré, donc j'ai fait en fait deux expés, hein. Ça c'était la première. Je suis rentré en France, à Paris, et là j'ai fait des recherches, et je me suis rendu compte, j'ai découvert aussi que beaucoup de gens autour de moi ne connaissaient pas cette part très significative d'Henry Ford. En fait, Ford a trois phobies très ancrées. La première, c'est les Juifs. La deuxième, c'est les syndicats. Et la troisième, c'est la vache. Parce que la vache, c'est sale. Il faut pas boire de lait. C'est un homme qui, Chaplin, dans les temps modernes, a pris son sosie. C'est-à-dire que quand on voit à un moment donné cet homme long, ascétique, avec le rictus de la découtation charnelle, qui est sur ses écrans, qui vérifie, qui épie ses ouvriers, c'est lui. En fait, c'est le sosie. Ford est presque analphabète, mais il a le génie de la mécanique. Donc, pourquoi est-il devenu antisémite? Je pense que le terreau était favorable, était très porteur déjà. C'est en 1915, il part pendant la guerre, il se décide de faire la paix. Il fallait réunir les belligérants et dire « c'est une erreur, on arrête ». Il part en Norvège. En Norvège, il se fait blackbooter et il revient donc déçu, frustré. Et sur le bateau, au retour, il tombe sur deux Juifs. Considérables, disait-il. Ces deux Juifs avaient envie de s'amuser, de jouer. Commence à le taquiner en lui disant que nous autres Juifs, nous voulons être à la tête du monde, nous pouvons arrêter cette guerre, c'est nous qui l'avons provoquée, on peut l'arrêter quand on veut, etc. Ford rentre et puis réfléchit et va complètement chambouler ses chaînes de fabrication. Il va se mettre à produire des armes lourdes, des armes légères, qu'il va vendre indifféremment à tous les belligérants. C'est un aspect d'Henry Ford. C'est un homme qui ne supporte pas la contradiction. Pourquoi les Juifs? Alors, il a pris un journal d'entreprise, le Dearborn Independent, et au départ, il faut savoir que dans sa population, il y avait 100 000 ouvriers, il y avait beaucoup de Cosaques, il y avait des Italiens, ça venait de tous les bords, ils étaient bien payés, et il fallait les aider à s'intégrer, ça c'était le prétexte. Et en fait, à travers ce journal, il a développé de plus en plus un brûlot antisémite, mais véritablement à vomir. Et ça a duré 7 ans. Il y a eu une trentaine de plaintes qui ont été rejetées jusqu'à ce que Shapiro, un avocat juif, s'en mêle et qu'il soit obligé d'arrêter le Dearborn Independent.
Là, d'une certaine façon, c'est un peu comme le fantôme qui est à l'origine de ce roman, comme dans le film d'Arthur Harari, oui. Le fantôme de Piero Goldman.
Il est toujours présent.
Il se trouve que vous incarnez cette histoire, non pas véritablement dans la figure d'Henry Ford qui apparaît, mais à travers deux narrateurs. Oui. L'un qui travaille au Dearborn Independent, dans ce journal. Ouais. Et l'autre personnage qui est un indien Yanomami, Hirou, donc Hirou. On a d'un côté Luther et de l'autre Hirou, qui sont comme peut-être les deux profils de l'homme que vous êtes, à la fois sauvage et diablement rusé,
Je ne crois pas. Je pense être rusé quand il faut l'être pour survivre, mais je ne pense pas m'être projeté. C'est-à-dire que, en général, je crée mes personnages. Cela, effectivement, Henry Ford a existé et je m'en suis très largement inspiré, comme Bennett d'ailleurs.
Harry Bennett,
oui, qui était un mafieux, qui était un petit voleur, un petit escroc, un dealer à son époque, qui a fait l'armée, qui a fait la marine, qui a fait la guerre, qui est revenu. Et Henry Ford a décidé de le prendre comme responsable du personnel de son entreprise. C'est-à-dire que sur 100 000 personnes, il avait 3500 mafieux qui intervenaient directement quand il y avait des problèmes. Pas de groupement, donc il était absolument interdit de se réunir, etc. Donc ces mafieux-là allaient dans toutes les villes américaines pour enquêter sur les ouvriers. quand il n'était pas sûr d'un ouvrier, bah, on allait demander à son ex-femme comment il était au lit, etc. Il fouinait dans les draps sales. Donc c'est un personnage extrêmement ambigu. En plus, il avait un fils. Alors Bennett, il faut savoir que Bennett est devenu son fils adoptif. Il adorait
Bennett. Fils adoptif d'Henry Ford, oui.
Ouais, le fils adoptif de Ford, il l'adorait. Et en même temps, il s'encanaillait parce que il le prenait en aparté et puis il lui disait « raconte-moi ». Alors, Bennett, bien sûr, était un mafieux de Détroit, lui racontait toutes les histoires de son milieu. Et par contre, il avait un fils, Edsel. Edsel était un garçon intelligent, sensible, timide, écrasé par la personnalité de son père. Et Ford avait l'habitude de lui dire « tu es directeur, prends des initiatives ». Un jour, Edsel crée un service de comptabilité avec 30 personnes, il le bâtit, etc. Ford attend qu'il ait fini pour lui dire « ça ne m'intéresse pas, on détruit, on élimine ». C'était ce type de personnage. Et tous les gens, ils ne supportaient pas des gens qui lui tenaient tête, ils ne supportaient pas des gens qui étaient indépendants. Pour lui, c'était sa bête noire.
Et vous créez deux personnages qui vont leur tenir tête. Et il y a des histoires de filiation aussi.
Mais oui, dans la relation de Bennett Ford, on sent donc des filiations qu'on se crée. Oui. Et des filiations aussi comme ça dans le film d'Arthur Harari. On dirait que le diamant et ses multiples facettes, c'est aussi les multiples facettes des relations père-fils qui peuvent se créer dans le film. C'est vrai que votre héros, Pierre Niels Schneider, il va trouver des figures paternelles successives. Est-ce que vous n'avez pas aussi exploré à travers la figure du diamant, voilà, toutes ces positions fictives, que ce soit de frère ou de père, qu'on peut embrasser dans la vie? Et qu'est-ce que vous avez mis aussi de vous, puisque ce n'est pas la première fois que vous travaillez sur les questions fraternelles et filiales?
Manifestement, ça me travaille effectivement un petit peu, donc je travaille ça dans les films. J'ai pas fait l'analogie avec le diamant quand j'écrivais de manière aussi consciente et volontaire. De toute façon, le diamant est par essence une métaphore, une pure métaphore, c'est-à-dire c'est rien quoi, c'est une pierre qui en soi n'a pas de valeur, elle a pas d'utilité, et c'est pour ça que c'est une des choses les plus chères du monde, parce que elle est une pure projection fantasmatique.
Donc et on donc, peut tout y projeter,
on peut y projeter beaucoup. Après moi effectivement mon film c'est de plus en plus développé sur un penchant, enfin une pente protéiforme comme ça. C'est-à-dire que tous les rapports que le personnage se mettait à développer m'intéressaient autant les uns que les autres, et la figure presque comme ça de projection paternelle s'est démultipliée, et donc c'est un personnage qui n'en finit jamais, en tout cas jusqu'au dernier moment du film, de voir des pères possibles. Et en fait, il y a quelque chose à la fois de pulsionnel chez lui qui a besoin de voir dans les autres des pères. Et en même temps, il y a quelque chose qui vient presque de l'extérieur, où les gens projettent sur lui l'inverse, c'est-à-dire un fils possible, et ça l'enferme littéralement, et c'est le nœud du film qu'il s'agissait de dénouer, enfin que lui doit dénouer comme personnage, et que moi je devais dénouer comme, enfin moi et mes co-scénaristes, on devait dénouer à l'écriture quoi.
Il y a peut-être une autre facette de ce film qui est que on a affaire à l'image, comme dans le scénario, à une histoire de l'œil, l'œil du diamantaire, l'œil qui est un motif récurrent de votre travail, notamment à travers des gros plans et des montages et des fondus enchaînés, Arthur Harari. Et il se trouve que s'il y a cette relation père-fils dans Fordlandia, on entend que vous êtes profondément documenté, et ça ressort sous forme romanesque
dans votre roman.
Ouais. Mais justement, ouais, il y a aussi une question de l'œil et du regard, parce que comme dans Too Bad or Not Too Bad, qui est l'un de vos précédents romans que j'avais beaucoup apprécié, Jean-Claude de Ray. Ici, en particulier avec le personnage indien de Hiru, on a affaire au regard.
Absolument.
Et peut-être au regard, aux yeux des enfants pour regarder le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette approche romanesque qui est de voir le monde à travers des yeux innocents,
oui,
que ce soit ceux de Jérémy qui découvre la forêt amazonienne ou de ce jeune adolescent indien?
C'est un regard innocent, naïf et qui capte l'essentiel. Quand Hiru, on ne va pas raconter bien sûr l'histoire, qui est assez longue, mais quand il va se retrouver à Fordlandia, il va se mettre à travailler obligatoirement, il va se rendre compte que C'est quoi ces hommes qui le matin se réveillent à la sirène? C'est quoi ces hommes qui courent pour mettre leur ticket, pour se faire, etc.
C'est quoi ces hommes en pyjama rayé?
Ces hommes en pyjama rayé. C'est quoi ces hommes qui portent des chaussures et qui portent des chapeaux? C'est quoi ces hommes qui plantent le latex, les graines de caoutchouc à la mauvaise saison? C'est quoi ces hommes qui détruisent la forêt sous les averses, qui utilisent énormément de kérosène? C'est quoi ces hommes qui nous obligent à manger avec des plateaux, des hamburgers, des saucisses, et le samedi après-midi de danser la valse, ce qu'il faut savoir, c'est que Ford est toujours derrière. Il est à des milliers de kilomètres, mais son ombre est captative. Il est toujours présent, il est omniprésent. Par exemple, quand les Indiens veulent danser, attention, il y a une grande salle de danse toute neuve, il y a le banc à gauche, les hommes qui sont assis, et à droite, les femmes. Quand ils décident de danser la valse, on ne doit pas se toucher, on doit effleurer la taille de sa cavalière comme on prend un crayon entre les doigts, très délicatement. Il y a des gardes en lunettes noires, en matraque, armées, qui interviennent quand le couple se resserre. Voilà. Donc en fait, Ford, c'est ça. Ford, c'est ça, c'est quelqu'un qui... C'est un mégalomaniaque. Pourquoi a-t-il créé Fordlandia ? Il faut savoir que à l'époque, dans les années 20, il y avait le dictat du caoutchouc, il y avait Churchill, les Français, les Hollandais, et qui a imposé des prix. Donc Ford n'a pas voulu passer sous ses fourches codines et a décidé d'acheter. Il a voulu d'abord acheter aux États-Unis, on lui a refusé. Ensuite, il est allé en Amazonie. Et en Amazonie, il a eu pour une bouchée de pain 10 000 hectares. Prenez ce que vous voulez, on vous vend le Brésil, on lui disait. Prenez, vous êtes chez vous et vous pourrez exploiter les pierres précieuses, vous pourrez exploiter les bois précieux, vous ferez ce que vous voulez, vous êtes le roi. Ça lui plaisait. Et il voulait, dans son esprit tortueux, avec ses idées absolument bizarres, il voulait créer l'homme nouveau avec l'Indien. L'Indien qui danse la valse, l'Indien qui se réveille à la sirène, etc., etc., etc. Ça a créé, bien sûr, des révoltes. Et il y a eu pas mal de soubresauts.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture. Cette émission qui, à l'occasion, est hantée par des fantômes de figures paternelles.
À suivre, une histoire de fou racontée par un Indien et une histoire de la violence avec nos invités Jean-Claude Doré et Arthur Harari.
Et tout de suite, il est l'heure du journal de la culture avec Zoé Sfez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Zoé. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous.
Alors Zoé, ce soir, vous n'êtes pas allée ni à Anvers, ni dans fin fond de la forêt amazonienne, mais en Alsace, puisque oui. Vous consacrez votre dossier du jour à une découverte donc qui n'est pas d'un temple maya, une découverte archéologique néanmoins, annoncée aujourd'hui par l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique d'Archéologie Préventive. Des restes humains ont été découverts sur un site alsacien à Aschenheim, à l'ouest de Strasbourg. Ils auraient près de 6000 ans et témoignent de plus de 6000 ans, j'imagine. Et témoigne d'un violent massacre, découverte qui a contribué à bouleverser la vision qu'on avait du néolithique.
Oui, alors vous connaissez le principe de l'archéologie préventive, puisqu'on en a beaucoup parlé ici, notamment au moment de la fameuse loi création, architecture et patrimoine, ce principe français qui nous est envié dans le monde entier, il faut le dire, qui vise à fouiller partout où on va construire en préventif. Et c'est donc en fouillant cette parcelle où devaient être construits, ou doivent toujours être construits, des logements et des commerces, que l'archéologue Philippe Lefranc, spécialiste du néolithique, néolithicien dit-on, qui a dirigé ses fouilles, a découvert ce site extrêmement surprenant.
Ce site-là, nous avons trouvé une enceinte fortifiée, c'est la première de ce type en Alsace. Donc ça, c'est assez original. Une enceinte qui enferrait plusieurs centaines, au moins 300 structures de stockage. Donc il y a une volonté de mettre des récoltes à l'abri, des structures de stockage de type silo. Et enfin, la découverte la plus importante, sur le fond d'un petit silo, les corps de 6 individus, complet, 5 adultes et un grand adolescent, qui était accompagné par 4 bras coupés. N'imaginez pas une seule seconde qu'on est tombé sur ce type de dépôt, qui reste quand même des dépôts relativement rares à l'échelle de l'Europe. Ce genre de découverte est importante parce qu'elle vient confirmer, après quelques autres, que la société préhistorique est une société qui n'est pas dénuée de violence, que la guerre est bien présente. Les sociétés néolithiques qu'on imagine encore quelquefois comme des sociétés pacifiques et égalitaires étaient en réalité des sociétés qui étaient elles aussi tournées vers la guerre.
En effet, Zoé, on a longtemps cru que le néolithique était un genre d'âge irénique, en tout cas dominé par la paix.
Oui, la guerre n'aurait pas encore été inventée, en tout cas pas la guerre organisée. Les individus seraient en train de vivre en groupe, tranquillement, en bonne harmonie. Or, effectivement, on l'a dit, les découvertes de ces dernières années, mais vraiment de ces toutes dernières années, tendent à exactement à prouver le contraire. Ce qui est intéressant, c'est que les scènes de massacres avec trophées, comme ces bras, pratique que l'on retrouve notamment, évidemment, en Amérique du Nord, toutes ces scènes de massacres qu'on a retrouvées ces dernières années, elles se concentre en Allemagne, en Autriche, mais il y a déjà un précédent en Alsace. Alors pourquoi tant de violence à la fin de cette période dite de la culture rubanée? Pourquoi en Alsace de surcroît? C'est la question qui se pose aujourd'hui, explique Philippe Lefranc.
Ça veut dire aussi qu'il se passe probablement quelque chose en Alsace vers la fin du 5e millénaire, quelque chose d'assez particulier, puisque c'est la deuxième fois que nous mettons au jour un dépôt de ce type. Les bras coupés avaient déjà été trouvés il y a quelques années sur le site de Bergheim. Alors ça fait beaucoup de violence autour de 4002 avant Jésus-Christ en Alsace. Tout ça est bien sûr hypothétique, il va falloir travailler beaucoup, mais une hypothèse qui me paraît assez séduisante, ce serait celle de l'irruption plus ou moins brutale, en tout cas plus ou moins bien acceptée par les locaux, de nouveaux groupes humains qui seraient originaires du bassin parisien. Archéologiquement, ça se voit pas trop mal en Alsace parce qu'on a un remplacement complet des décors céramiques qui caractérisent les cultures archéologiques, hein, avant et après 4002. Les rites funéraires changent aussi complètement, et puis les habitats se déplacent. Donc ça fait quand même beaucoup de ruptures à beaucoup de niveaux.
Voilà, alors ce grand remplacement est-il plausible? Dans quel contexte a-t-il eu lieu? Épidémie, changement climatique ou autre? On ne sait pas. En revanche, Philippe Lefranc et son équipe sont en train d'essayer de lever des fonds. Le but, c'est de faire une analyse génétique pour voir si le phénotype de ces squelettes qu'on a retrouvés a quelque chose à voir ou au contraire n'a rien à voir avec celui des gens qui habitent aujourd'hui en Alsace, qui viendraient infirmer ou confirmer cette thèse. Suspense. Avec vous Zoé, l'actualité culturelle, c'est une actualité chaude, il faut le savoir. C'est
chaude qu'il y a 6000 ans, mais quand même.
Mais oui, chaude. Mais ça reste chaud, c'est ça
très
qui est
présent.
Bien. Donc, il y avait ce feuilleton donc sur la loi architecture et patrimoine, il y a un autre feuilleton, celui des intermittents, et c'est le début des brèves.
Tout à fait, une centaine d'entre eux occupent depuis 13h aujourd'hui le siège du MEDEF, situé à avenue Bosquet à Paris, dans le 7e arrondissement de la capitale. La police est sur les lieux, elle a évacué ses manifestants, parmi lesquels certains sont montés jusqu'au 2e étage du bâtiment, et il y aurait eu une altercation entre un intermittent et un membre du MEDEF. Autre moyen de lutte, cette lettre signée par près de 200 artistes dans Libération, parmi lesquels plusieurs grands réalisateurs et acteurs de Nippo Dalides, Céline Sciamma et j'en passe, intitulée « Intermittence, la dangereuse générosité de l'État ». Je rappelle que l'État a accepté de prendre en charge une partie des économies exigées par le MEDEF sur l'assurance chômage, alors que les intermittents, eux, refusent de dépendre du bon vouloir de l'État et donc du pouvoir en place. Ils souhaitent rester à l'intérieur de la solidarité interprofessionnelle. Ils demandent donc pour cela la mise en application de l'accord qui a été signé par l'intégralité de la profession, mais qui est toujours refusé par le MEDEF.
Le prix Jean Vigo 2016 a été attribué lundi soir au cinéaste espagnol Albert Serra pour son film « La mort de Louis XIV », film qui met donc en scène l'agonie du roi de France entouré de ses fidèles et de ses médecins, figure centrale de ce film qui incarne Louis XIV, de ce film préféré donc lors du Festival de Cannes, l'acteur français Jean-Pierre Léo, qui a même reçu une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à cette occasion. Je rappelle qu'Albert Serra a été distingué par le jury pour, je cite, sa façon singulière de filmer l'histoire, pour ses films à la fois somptueux et désinvoltes qui font de lui un cinéaste unique. Autre prix littéraire cette fois, celui des enfants tristes. Roger Nimier a été attribué mercredi à Paul Gréveillac pour Les âmes rouges.
Paru chez Gallimard, un premier roman qui nous entraîne à Moscou, de la mort de Staline à l'effondrement de l'URSS et qui suit la vie d'un censeur. Créé en 1963, je rappelle que le prix Roger Nimier récompense un jeune auteur dont l'esprit s'inscrit, je cite, dans la lignée de l'œuvre littéraire de Roger Nimier, chef de file du mouvement littéraire dit des Hussards. Il est doté de 5000 euros et il est offert par Vincent Bolloré, mécène du prix.
C'est cadeau. Et justement, le mercato continue et la grille de Canal+ se précise.
Cyril Hanouna produira et présentera sur Canal+ le 28 juin avec son ancien patron Dominique Farrugia une émission spéciale, la très très grosse émission, encryptée, destinée à être une forme de produit d'appel pour l'année prochaine, sachant que les cases en clair se restreignent. Un exemple des nouveaux ponts que Vivendi souhaite créer entre D8 et Canal+. On a appris aussi que l'émission Le Tube va survivre au départ de sa présentatrice Ophélie Meunier. C'est Isabelle Iturburu, aujourd'hui spécialisée dans le rugby, qui en reprendra les rênes.
Ping-pong. Foin de rugby, foin de télévision, on quitte même l'Alsace et Moscou à présent pour plonger dans la somptuosité des mythes Yanomami, ces Indiens d'Amazonie. Je vous propose d'écouter le mythe de l'oiseau noir.
Aku asal ablari macam apa? Eli asal as bayi 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 bayi. Yamak Eli. Yudu. Tap aku dah tap Eli asal. Wow. Kurai.
Jean-Claude Deray, l'un de nos invités, lui, a tout compris, mais je fais les sous-titres pour les autres qui, comme l'auteur de Fordlandia, donc ce roman d'aventure, de mystère, un brin thriller paru chez Rivage, qui nous plonge, voilà, chez les Yanomami dans la forêt. Pour tous ceux qui n'auraient pas compris ce mythe de l'oiseau noir, je peux dire en substance qu'il raconte la transformation des ancêtres en animaux. C'était un extrait du film La maison et la forêt, diffusé dans les temps jadis, dans l'émission Appel d'air sur France Culture. Précisément, il y a cette question de la transformation des hommes et des femmes en animaux, une transformation spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la part animale de l'homme, qu'elle se menait en bestialité ou en spiritualité, et que vous avez choisi de mettre en scène cette part bestiale de l'homme, à la fois chez les Indiens Yanomami, donc avec ce personnage notamment de Hirou, adolescent, qui part à l'assaut de Fordlandia.
Son frère.
Et chez les Blancs.
Aussi, ce qu'il faut savoir, enfin, ce que j'ai découvert, ce que je constate et qui est récurrent, c'est que une fois qu'on franchit certaines limites invisibles, les tropiques, l'équateur, les blancs se débraillent, perdent leur côté civilisé, etc. Et véritablement, c'est là que tout à l'heure vous parliez de la beauté des choses, de la beauté des paysages. Mais je pense que cette beauté, c'est une question effectivement de regard et d'être présent, totalement présent. Mais je ne pense pas que si on prend tous les blancs, les techniciens, les ingénieurs qui étaient à Fordlandia, ils n'ont pas vu la beauté. Ils ont vu les scorpions, ils ont vu les serpents, ils ont vu la chaleur, l'étuve, ils ont vu ces Indiens.
L'enfer vert, c'est le surnom.
Oui, ils ont vu cet enfer vert.
Que vous avez vu aussi, hein, vous, oui, l'ethnologue défroqué.
Bien sûr. Mais en même temps, je veux dire, c'est véritablement une question de regard. C'est les gens changent. Le personnage de Bennett, qui est un mafieux,
Harry Bennett, donc Harry Bennett,
le fils spirituel de Ford, oui, lui va changer aussi. Alors, tout dépend de la transformation, et je pense que ça peut être très salutaire, comme ça peut être totalement suicidaire.
Vous avez un animal totem, Jean-Claude Deray? C'est le jaguar, l'oiseau noir?
Le jaguar, je l'ai déjà dit, à l'oreille coupée, hein, ce que vous avez souligné.
C'est vous?
Non, j'en ai un autre, mais que je garde secret, parce que vous le savez très bien.
Ça serait dangereux pour nous de le savoir, en plus.
Oui, mais je ne peux pas le divulguer. Ou alors hors antenne.
Parce qu'on pourrait vous faire du mal si vous divulguez votre animal totem?
Non, mais c'est précieux, c'est comme un flacon de parfum. Si vous le débouchez, le parfum s'en va.
Arthur Harari, n'est pas question de parfum, mais de diamant noir dans ce thriller qui sort demain sur les écrans. J'étais diplômée de l'école de la transition, je tiens à le préciser. Et moi, ce qui m'a intéressé, puisqu'on parle de regard, effectivement, oui, c'est un film sur le regard, l'œil du diamantaire, vous pensez bien, est extrêmement présent. Il y a même une ouverture à la Buñuel, je le citais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a un œil comme ça, plein écran, puis une scène accidentelle, tragique, donc, de ce jeune diamantaire, tailleur de diamants, qui va se couper les doigts sur le disque avec lequel on les taille. On retrouve presque l'œil tranché de Buñuel. Je trouve qu'il y a vraiment une place pour une ligne narrative surréaliste. Il y a aussi une place pour des scènes de rêve, donc, qui accompagnent le film, en plus du polar, en plus du romanesque, en plus de la vengeance, en plus de la famille. Vous l'avez dit, le film noir, c'est vraiment un genre boulimique. Est-ce que vous nous diriez un mot de la violence fassbinderienne qui peut y avoir aussi dans le film, dans les influences, puisqu'on retrouve un des types de la bande de Fassbinder, hein, c'est Hans-Peter Klaus qui joue l'oncle de Nils Schlüter, le héros.
je peux dire que le comment dire, je sais pas si c'est surréaliste le mot qui moi me viendrait. Je pense que le l'onirisme voilà est peut-être plus
plutôt
en tout cas c'est celui que j'emploierais.
Je le garde.
Le film est vraiment une expérience mentale autant que qu'un trajet réaliste ou réel. Et le fait d'ouvrir le film par un œil qui est fermé en l'occurrence et qui va s'ouvrir à la fin de cette scène est une manière de le planter clairement quand il s'agissait de passer à travers cet œil fermé et de voir ce qu'il y a derrière. Moi je suis assez intéressé par les expériences de cinéma qui sont des expériences purement subjectives ou en tout cas pas purement, impurement, je sais pas si on peut le dire, subjectif, c'est-à-dire qu'on oscille en permanence entre une objectivité qui, quand on est devant un film, le spectateur a quasiment tout le temps l'impression, s'il ne pousse pas la réflexion au-delà de ce qu'on lui propose dans le spectacle, que ce qu'il voit, c'est un certain réel, une réalité, voilà. Et en fait, ça permet, cette croyance-là, permet de raconter des choses beaucoup plus dérangeantes, beaucoup plus tordues et beaucoup plus subjectives. Subjectives voulant forcément dire déformées. Et c'est cette ambiguïté-là qui, moi, m'intéresse. Qu'est-ce qu'on se raconte?
Chez Fassbinder, justement, qu'est-ce que vous avez pris dans cette ambiguïté?
Qui est le roi de la déformation.
Oui.
En fait, c'est tellement riche, Fassbinder, c'est tellement lui-même un relecteur, c'est-à-dire c'est un digéreur, j'utilise des mots bizarres, mais Fassbinder m'y autorise. Parce que Fassbinder, j'aime pas trop le mot postmoderne, mais c'est quand même un type qui arrive après un âge d'or et qui est principalement l'âge d'or hollywoodien et qui est fasciné par l'esthétique hollywoodienne et par la forme hollywoodienne et qui raconte son pays, sa réalité, son temps et ses obsessions d'Allemand d'après la guerre en réinterprétant ces formes-là. Et ce déplacement, moi, j'ai l'impression de reconnaître quelque chose de ce qui m'intéresse. Moi, j'ai été biberonné comme d'amateurs de cinéma, en partie au cinéma américain et au cinéma classique américain et ce qui en découle. Et j'ai l'impression que ce filtre-là pour raconter ce qui moi m'intéresse de ma réalité, même si elle n'est pas strictement locale, parce que le film d'ailleurs ne se passe pas tellement en France, mais en tout cas, on parle toujours, qu'on le veuille ou non, on fait toujours un documentaire sur ce qu'il y a autour de nous aussi et d'abord. Et de passer par un détour qui serait celui d'une série de formes passées, moi m'intéresse. Alors j'ai entendu des gens dire que mon film était rétro, j'ai lu des choses, je le prends pas mal, mais il ne s'agit pas de se rassurer dans le passé, en tout cas c'est pas ma démarche, mais plutôt d'inquiéter le présent avec des formes passées. Et ça j'ai l'impression que c'est ce que Fassbinder fait génialement.
Jean-Claude Deray, le passé surgit, ressurgit aussi dans votre roman Fordlandia, sous la forme de la mémoire de ces deux jeunes Indiens Yanomami qui vivent avec le poids du massacre de leurs parents et de leur village, avec le poids du passé du personnage aussi de ce jeune juif Luther qui écrit pour Henry Ford dans un journal très antisémite et qui ressurgit lui aussi. Oui. Et en même temps, à travers cette forme romanesque, vous inventez des personnages, vous emparez de grandes figures historiques comme Henry Ford ou Harry Bennett, son bras droit, on en a parlé. En quoi est-ce que ce roman, Fordlandia, est aussi un documentaire, comme dit Arthur Harari, sur votre réalité? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir venger à la fois les Indiens et les Juifs d'Amérique?
Alors, je dirais pas venger, je dirais... au départ, je comprenais pas, j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Je vous ai dit tout à l'heure, en aparté, qu'en septembre, je sors L'Étoile et le Néant, qui est le premier roman, en fait, qui traite de la passivité des Alliés vis-à-vis du génocide juif. Ils le savaient depuis 41. Et après avoir travaillé pendant 4 ans, c'est vraiment une parenthèse, je me suis rendu compte que j'avais pas répondu à cette question. Pourquoi cet antisémitisme? Et j'ai voulu le retraité à travers le personnage de Luther qui joue le jeu, qui se fait passer pour un Irlandais, qui etc. de manière à pouvoir accéder à toutes les à tous les secrets.
Oui, voilà. Voilà, il est dans un journal va financer le national-socialisme avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que entre les rapports, vous avez parlé d'Hitler tout à l'heure, Hitler avait un seul portrait dans son bureau, c'était Henry Ford. Henry Ford a été décoré en 1938, c'est vraiment des faits, vous parliez d'authenticité, c'est ça les racines. En 38 de l'ordre du Grand Aigle. En 46, Henry Ford, toujours très antisémite, bien qu'il ait juré quand il y a eu le procès qu'il a été obligé de cesser la parution de ses articles ignobles, en 46, il assiste, on lui projette un documentaire. Ben, c'est la libération des camps. Il meurt foudroyé. Et je trouve que cette fin est incroyable, qu'il y a ce télescopage entre la réalité et la fiction. Voilà, voilà quelqu'un qui a toujours vomi les Juifs et qui tombe raide mort en assistant à cette réalité.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Zoé, vous êtes de retour pour le disque du jour et on tombera pas foudroyé, mais on tombera peut-être en amour, comme quand on lit Fordlandia ou qu'on découvre Diamant Noir en salle de main, le nouveau film d'Arthur Harari.
On en apprend des choses dans cette émission. Alors là, on va parler d'un homme qu'on connaît déjà et qu'on aime beaucoup, se touche à tout, complètement boulimique, chanteur, compositeur, saxophoniste, Thomas de Pourquery, qu'on vous avait présenté en mars dernier. Alors rappelez-vous, on l'appelle un peu l'homme aux mille projets, puisqu'il a déjà un duo viking avec le guitariste Maxime Delpierre, avec un parfum de West Coast. Il a un autre projet qui vient de sortir, Broadways, où il utilise sa très belle voix de crooner en collaboration avec le Red Star Orchestra. Enfin, troisième projet avec qui il sera en concert dès ce samedi à Paris. C'est une exploration du répertoire absolument incroyable du jazzman américain cosmique Sun Ra.
Oui, parce qu'il venait de l'espace.
Il venait de l'espace et c'était un homme avec une philosophie très particulière qui s'exprimait dans sa musique. Il a enregistré près de 200 albums. Donc, un répertoire que Thomas de Pourquery retravaille, redécouvre avec le supersonique, démonstration avec Love Out of Space.
Sunrise, love everlasting, reaches out to a lover like me again. Sunrise in love, love, love.
So right.
Love Out of Space, une chanson de Sun Ra, revue, réinterprétée, revécue par Thomas de Pourquerie et le Supersonic. Ils sont en concert le 11 juin, c'est samedi, au Parc Floral à Paris. Donc avec ce projet, sachez que Thomas de Pourquerie sera aussi le 14 juin à Puteaux dans le cadre de la Défense Jazz Festival, en concert, cette fois avec le Red Star Orchestra.
Et sachez qu'il a aussi un quatrième projet, il est acteur, Thomas de Pourquerie.
Tout à fait, on va découvrir dans plusieurs films, et sachez par ailleurs que vous le retrouvez dans les pages de notre partenaire Le Figaroscope, qui est en kiosque dès demain.
Parterelle.
On le retrouve aussi dans les pages de l'émission Ping Pong sur le site franceculture.fr.
Tout à fait, il était invité le 13 mars dernier aux côtés des brillants musiciens du Quatuor d'Otima.
Merci, Zoé.
Ping Pong, c'est déjà fini.
Et c'est une tragédie. Merci beaucoup à tous deux, Arthur Harari, Jean-Claude Deray. Jean-Claude Deray, donc, vous signez chez Rivage, Thriller, Fordlandia, votre nouveau roman. Et puis, il faudra attendre la rentrée de septembre, la rentrée littéraire, pour découvrir ce roman, donc, en plusieurs volets.
Il y a deux volumes, oui.
À cette passivité des alliés durant le génocide, durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, un autre roman sur vos aventures auprès des chamans.
Alors, non pas en Amazonie. En fait, dans un volume, il y a deux romans. Le second, c'est Raoul Wallenberg, qui est un peu le pendant. Passivité des alliés, il ne reste plus que les juifs de Budapest. Ben, il y a un Suédois qui va essayer d'en sauver le maximum. Il y a ça, et puis les chamans, bien sûr, les chamans mongols, ce sera en mars prochain.
Et à mi-chemin dans ce grand écart romanesque que vous nous proposerez très bientôt, donc en septembre, eh bien, on peut aller au cinéma, que ce soit à Paris, à Anvers ou à Manaus, pour découvrir Diamant Noir, le nouveau film d'Arthur Harari, avec cette distribution, je le disais tout à l'heure, on l'a pas suffisamment dit, assez éblouissante. Neil Schneider, Hans-Peter Klaus, j'en passe, et
Auguste
notamment
Dill, qui avait été exceptionnel dans Inglourious Basterds, entre autres, et également Abdelhafed Ben Othman qui a quitté en fait ce monde juste après le tournage du film. Oui. Arthur Harari, le film lui est dédié, il est écrivain et braqueur. Hein.
Exactement. Son dernier livre, Un jardin à la cour, paraît chez Rivage, il faut le lire, c'est magnifique.
Le ping-pong est un drôle de sport,
mais
une
oui,
exploration
un drôle de sport
amazonienne, mais un oui, diamant aux mille facettes.
C'est une intrigue radiophonique qui sourdit en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction Aïssat Ouendoy, Hélène Delis et Mathilde Cadreau, à la réalisation, la programmation musicale Thomas Beau, et la prise de son ce soir d'Ofar Guérid et d'Ali Yaha.
Et à quel jeu jouerons-nous demain ?
Demain, vous verrez, ce sera théâtral.